Soyez les bienvenus à l'Église réformée du Bouclier à Strasbourg. Nous sommes heureux de vous proposer la méditation de ce dimanche.
La première lecture est dans le premier chapitre de Luc, au verset 26 à 38. Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une vallée de Galilée du nom de Nazareth, à une jeune fille accordée en mariage à un homme nommé Joseph de la famille de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra auprès d'elle et lui dit « Sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu, le Seigneur est avec toi. » À ces mots, elle fut très troublée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas être enceinte. Tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la famille de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation conjugale ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et sera appelé Fils de Dieu. Et voici que Élisabeth, ta parente, est elle aussi enceinte d'un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son sixième mois, elle qu'on appelait la stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors, « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi, comme tu me l'as dit. » Et l'ange la quitta.
Et dans le même chapitre, le premier chapitre dans l'évangile de Luc, je lis les versets 46 à 55. Alors Marie dit « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit s'est rempli d'allégresse à cause de Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a porté son regard sur son humble servante. Oui, désormais, toute les générations me proclameront bienheureuse, car Dieu, le Tout-Puissant, a fait pour moi des choses magnifiques. Il est le Dieu Saint, sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le respectent. Il a montré son pouvoir en déployant sa force, il a mis en déroute les hommes au cœur orgueilleux. Il a renversé les rois de leur trône et il a placé les humbles au premier rang. Il a comblé de bien ceux qui avaient faim et il a renvoyé les riches les mains vides. Il est venu en aide au peuple d'Israël, son serviteur. Il n'a pas oublié, de manifester sa bonté envers Abraham et ses descendants, comme il l'avait promis à nos ancêtres. » Ecce ancilla Domini, fiat mihi, secundum verbum tuum. Qu'il me soit fait selon ta parole. » Ce texte est magnifique, n'est-ce pas ? Une œuvre d'art, un joyau ciselé, précis, calibré. Oh non, je vous en prie, je n'y suis pour rien. Luc et ses amis ont su trouver les mots pour accoucher ce que je n'ai su finalement que balbutier du bout des lèvres. Non, vraiment, je n'y suis pour rien. C'est d'ailleurs l'histoire de ma vie de n'y être pour rien. J'ai, dans un moment de faiblesse, voulu croire que j'avais été choisi pour mes qualités, pour ma lignée, pour ma beauté. Les gens vous le diront, demandez-leur. Ils m'ont trouvé toutes les qualités du monde. Comment pourrait-il en être autrement ? C'est comme si ils avaient besoin de me magnifier pour ne pas avoir à se mettre à ma place. Ils ont du mal à croire que je sois comme eux. Si je suis vierge, je vous en prie, pas vous. De guerre lasse, j'ai souvent eu envie d'abandonner l'idée de leur faire comprendre. Vous savez, au fond, je n'étais pas prête pour ça. Toute cette histoire s'est allée très vite. Je ne voulais pas, je ne savais pas pourquoi moi, j'étais si jeune. Tout à coup, une femme en plus, après tous ces prophètes, tous ces juges, tous ces rois, tous ces hommes, pourquoi moi ? Pourquoi tout à coup vouloir changer ? J'ai pensé, l'espace d'un instant, réagir comme lui faire le coup de Moïse. Vous savez, « Ah non, Seigneur, pas moi, je ne suis pas digne, mais je n'ai pas pu. » À quoi bon ? Il aurait fini par me convaincre, comme tous les autres. « Fiat mi, secundum verbum tuum, qu'il me soit fait selon ta parole. » je comprends que vous n'ayez pas complètement confiance. Tout cela remonte à tellement longtemps pour vous. Vous vous dites que vous êtes plus informé, plus raisonnable que je ne l'étais. Il est difficile de croire à un ange, je ne vous en veux pas. Il est difficile de parler du Fils de Dieu. Vous n'imaginez pas à quel point ça l'a été pour moi. Je savais que ce n'était pas la première fois qu'on annonçait une naissance aussi spéciale. Je connaissais bien sûr des histoires de naissance, la naissance d'Isaac, la naissance de Samuel, et même des histoires grecques, égyptiennes, un peu similaires, un peu trop similaires, à tel point qu'on se demandait si elles n'avaient pas été une source d'inspiration, sans le dire, bien sûr. Mais l'important n'est pas là, croyez-moi. Que vous dit mon histoire pour aujourd'hui ? Quelle est la valeur de ce texte ? Voilà la vraie question. C'est celle qu'a su pointer Luc. Même si votre mode de représentation du monde et des dieux n'est plus le nôtre, même si vous sentez des différences de culture, de contexte, de langage, de vocabulaire, il vous est possible d'assumer tout cela dans une lecture personnelle. Si vous comprenez qu'il y a là l'annonce, l'annonciation d'un Dieu qui fait le choix du particulier, une certaine Marie de Nazareth, pour atteindre l'universel, le salut du monde, le choix d'une personne pour que tous aient leur place au sein de l'humanité, le choix d'une naissance qui dise le potentiel immense de la vie à venir, comme s'il y avait dans cette naissance la parabole d'un potentiel de salut qui va se déployer pour tous, le choix enfin d'un lieu et d'une histoire qui dise en creux le possible de s'inscrire à votre tour dans cette histoire, comme j'ai pu le faire moi-même alors que, croyez-moi, rien, mais alors vraiment rien, ne m'y avait préparé. Fiat mihi secundum verbum tuum, qu'il me soit fait selon ta parole. Alors, soyez prudents et gardez-vous de lire ce récit d'un regard distrait et hautain, un peu méprisant à cause de la présence dérangeante d'un ange ou de la mise en récit d'une naissance miraculeuse. Il n'y a ici en réalité aucune disqualification du discours religieux ou du discours mythologique. Il y a au contraire, en un geste étonnant, relecture, reprise, reformulation, requalification de la personne humaine dans son effort d'intelligence et de recherche de la foi. Il y a requalification de l'humain, et cet humain, j'en suis malgré moi, la figure exemplaire. Moi qui, mais comme chacun de vous, n'y suis pour rien. Or, en termes théologiques, dans un langage que vous connaissez, qui correspond plus à votre culture, cette requalification de l'être humain, cette nouvelle définition, se nomme justification par la grâce. Je suis bien la première justifiée par grâce de la nouvelle alliance. Moi qui ai la foi et qui n'ai rien fait, qui n'ai rien eu à faire ni rien à prouver. Quand je vois avec quelle ardeur vous essayez de faire vos preuves dans tous les domaines, je sais que mon histoire est actuelle. On vous a fait croire que vous ne pouviez compter que sur vous-même pour réussir. On vous a convaincu que c'est dans la comparaison à l'autre que se mesure votre valeur, avec de bonnes intentions, bien souvent. On a trop souvent voulu vous mettre dans la tête que le statut, le titre, le diplôme, le rang font la légitimité. Mon histoire, si modeste soit-elle, vient mettre l'idée selon laquelle vous ne pouvez être estimé et respecté qu'à l'aune de vos critères. Cette idée-là est fausse. Je suis bien la première justifiée par grâce de la nouvelle alliance, moi qui n'ai rien fait, rien à prouver. Annoncez cette nouvelle, cette information, cette bonne information autour de vous, comme je l'ai fait quand je l'ai compris, signifiera que l'œuvre à laquelle vous croyez n'est en rien intemporelle, que le Dieu que vous confessez n'est pas céleste, désincarné, que sa bonne nouvelle a quelque chose à voir avec vos existences mêmes, avec vos vies, avec vos sociétés, avec vos émotions, vos indignations, vos élans. Emmanuel, Dieu parmi nous, Jésus, l'Éternel délivre, compagnon de vos vies, en campagne, dans votre monde, a décidé non seulement de pointer vos errements et vos fautes, mais de les pardonner, et ce, afin de vous mobiliser en Christ. C'est le sens de mon cantique. Rappeler au monde que Dieu non seulement ne l'oublie pas, mais qu'il vient sans cesse à lui. Il n'a pas oublié de manifester sa bonté envers Abraham et ses descendants, pour toujours, comme il l'avait promis à nos ancêtres. Mais la phrase principale, celle que vous pouvez non seulement comprendre, mais que vous pouvez vous approprier, faire vôtre, c'est la première. Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit s'est rempli d'allégresse à cause de Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a porté son regard sur son humble servante. Si je n'ai qu'un message à faire passer, c'est celui-là. Non pas d'essayer de me mettre en avant, et comment le pourrais-je, mais de louer Dieu avec tant d'ardeur que ma louange devienne contagieuse. Et elle le devient, quand mes interlocuteurs comprennent non seulement qu'ils auraient pu être à ma place, mais qu'ils le sont. la place d'une humble servante qui, malgré le fait qu'elle n'a rien d'exceptionnel, a accepté que le Seigneur porte son regard sur elle. Quand ils prennent conscience de leur humilité et qu'ils réalisent que malgré leur humilité, Dieu porte son regard sur eux, alors peuvent-ils se considérer bienheureux ? Alors je vous y invite, lisez l'œuvre de Luc, ce joyau ciselé, précis, calibré, et faites le vôtre, afin qu'à votre tour, on puisse vous dire bienheureux. Amen.
Vous venez d'écouter une méditation de l'Église réformée du Bouclier. Que Dieu, par sa parole, vous accompagne et vienne toujours mettre foi, espérance et amour dans vos vies.